Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'APM. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Bertrand Pullman pour parler de la famille. Bienvenue Bertrand.
Bonjour à toutes et à tous, merci.
Alors Bertrand, tu es sociologue, anthropologue, tu es professeur honoraire à la Sorbonne et à l'EHESS. Ça va, je ne l'ai pas écorché.
C'est parfait. Tu
as consacré énormément de temps à faire des recherches sur des sujets qui touchent directement à nos vies, la famille, mais aussi la santé, le sport, la performance et le bien-être dans tout ça. À l'APM, tu proposes... Alors, tu as eu deux expertises. Une première où tu es arrivé par la performance. Et bon, ça, on va essayer de peut-être aborder dans un second temps ce sujet-là de la performance. Mais ton sujet de prédilection, qui a eu un grand succès, hein, puisque tu es passé dans énormément de clubs, c'est la famille. Donc, une seule, c'est les transformations. Quand on dit la famille, c'est les transformations de la famille contemporaine, hein, c'est ça?
Je crois que ça s'appelle la famille hier, aujourd'hui et demain. Je dis je crois parce que c'est l'APM qui a trouvé le titre, à vrai dire.
Et qu'est-ce qui t'a donné... Alors déjà, comment tu en es arrivé à ce sujet?
Écoute, je suis anthropologue de formation. Et mes tout premiers travaux portaient sur... les débats entre les anthropologues et les psychanalystes. Il y a eu énormément de débats entre les anthropologues et les psychanalystes sur la question de savoir si les formations psychiques décrites par Freud étaient ou non universelles. À partir du moment où des anthropologues ont travaillé sur des sociétés où les règles d'éducation, d'organisation familiale sont très différentes de ce qu'elles sont dans nos sociétés, légitimement, ils se sont posé la question de savoir si les formations psychiques décrites par Freud et découvertes à partir de l'étude de patients occidentaux, se retrouvaient dans ces sociétés. Pour faire très très court, est-ce que les papous de Nouvelle-Guinée ont ou non un complexe d'Oedipe ? Eh bien voilà, moi je suis, au départ, je suis un spécialiste de ces questions-là.
Est-ce qu'il y a une réponse par oui ou par non à cette question-là ?
Alors là, pour avoir la réponse, il faut acheter mes bouquins. Hein. C'est un teaser que je faisais. Non, c'est très discuté, les anthropologues ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Moi, je pense qu'à un certain niveau de généralité, la réponse est oui, c'est universel, avec des aménagements différents suivant des sociétés. Mais ensuite, je me suis rapproché de problématiques plus proches de nos sociétés contemporaines et j'ai pas mal travaillé sur la procréation médicalement assistée. J'ai fait des enquêtes dans des hôpitaux, on pratique des fécondations in vitro, des transferts d'embryons, etc. Il se trouve que j'enseigne les sciences sociales en faculté de sciences sociales, mais aussi en médecine, parce que les étudiants en médecine ont des cours sur ces questions aujourd'hui. Donc, les médecins m'ont accueilli plutôt agréablement. J'ai pu assister à des consultations, à des staffs où ils discutent de sujets délicats, éthiquement complexes. Et donc, j'ai rassemblé mes matériaux dans des livres consacrés à la procréation médicalement assistée. Et à partir de là, je me suis interrogé sur les bouleversements que ça entraînait dans nos modes d'organisation familiale et sur comment ça pouvait affecter le monde du travail et notamment le monde de l'entreprise.
Alors, déjà, quand on parle de famille, est-ce que c'est quoi la définition de laquelle on doit partir ?
Alors, c'est toute la difficulté parce que c'est très compliqué. Ça paraît simple, mais c'est très compliqué. Ça paraît simple parce que spontanément, évidemment, quand on parle de famille, il nous vient à l'esprit un mode d'organisation qui devient de moins en moins répandu, mais quand même, qui reste très classique. Un homme, une femme, les enfants qu'ils ont eus ensemble et qui vivent sous le même toit. Or, l'histoire et l'anthropologie nous montre que ça, c'est une forme de la famille parmi d'autres. Il y a de très multiples formes de la famille, qu'on pense tout simplement au nombre des conjoints. Il y a des sociétés qui pratiquent le mariage monogamique, il y en a d'autres qui pratiquent la polygamie, et à partir même, à l'intérieur même de ce modèle polygamique, il y a des sociétés qui pratiquent la polygamie masculine, où un homme peut avoir plusieurs épouses, et puis des sociétés, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, qui pratiquent ce qu'on appelle la polyandrie, c'est-à-dire la polygamie féminine, où une femme peut avoir plusieurs époux. Donc c'est très difficile de produire une définition de la famille qui vaille universellement. Moi, la définition que je propose, elle est directement inspirée des travaux de ce très grand anthropologue français qui s'appelait Claude Lévi-Strauss, et qui disait que la famille, c'est un groupe socialement reconnu d'individus qui se considèrent comme étant parents entre eux, et qui joue un rôle privilégié pour la conception et l'éducation des enfants. C'est une définition qui est volontairement un peu relâchée, mais c'est en produisant une définition un peu relâchée comme ça qu'on peut dire que, ainsi définie, la famille est universelle. Elle prend des formes différentes d'une société à une autre, mais partout, il y a des gens qui se considèrent comme étant parents entre eux et qui jouent un rôle privilégié par rapport aux enfants.
En tout cas, là, si j'entends bien, on s'arrête au cercle des parents et des enfants. Ça n'intègre pas les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, village
si.
Entier.
Si, si, ça dépend des sociétés. En fait, les gens qui se considèrent comme étant parents entre eux, selon les lieux, selon les époques, selon les cultures, ça peut intégrer un cercle plus ou moins large de parents.
Ok.
Dans un clan, il y a un exemple très connu en anthropologie qui s'appelle les Nuer, c'est une société qui vit dans le sud du Soudan. Tous les gens qui appartiennent au même clan se considèrent comme étant parents. Ça représente 7000 personnes.
Toi, quand on commence par peut-être regarder un peu dans le rétro et tu t'es intéressé à l'évolution de la famille à travers les âges. Mais si on se regarde juste peut-être, je sais pas, sur les 50 dernières années, quelles sont les principales mutations, évolutions qui sont intéressantes de comprendre ?
Oh, il y en a beaucoup. D'abord, nous autres anthropologues, on, à tort ou à raison, on raisonne sur des périodes plus longues que 50 ans.
Ah.
Parce que ça permet de dégager des grandes tendances dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qui permet de faire de la prospective. Parce qu'on peut comme ça s'interroger pour savoir si ces tendances vont continuer ou au contraire vont s'infléchir.
Et là, tu remonterais jusqu'à quand alors
Je vais quand même répondre à ta question, mais nous, on remonte très très loin. On remonte à partir du moment où il y a de l'humain sur Terre. Cette question de savoir depuis quand il y a de l'humain sur Terre est une question compliquée, parce que ça dépend des critères qu'on utilise. Mais le critère qui est le plus communément répandu chez les anthropologues, c'est le mode de locomotion bipédique. Nous sommes les seuls animaux, et en particulier les seuls primates, qui n'utilisons que deux de nos membres pour nous déplacer, ce qui est extrêmement important puisque ça laisse libre les deux autres membres, et en particulier les mains, pour le geste technique, ce qui explique l'explosion de la technique. C'est une des causes de l'explosion de la technique dans l'espèce humaine. Or ça, l'apparition de la bipédie, c'est il y a 7 millions d'années, c'est-à-dire le recul que peuvent prendre les anthropologues. Si tu raisonnes sur cette très très longue période, il y a un certain nombre d'évolutions qui sont très frappantes, pour n'en citer que deux massives, mais auxquelles on ne pense pas tellement elles crèvent les yeux d'une certaine manière. La première, c'est la réduction de l'autorité des hommes sur les femmes. C'est une des grandes tendances évolutives qui, évidemment, s'est accélérée ces dernières années, mais qui ne date pas d'hier. Et la deuxième, c'est la réduction des rapports d'autorité des aînés sur les cadets. Voilà.
Mais là, oui, quand tu dis ça s'est accéléré, là, sur ces deux tendances-là, on a l'impression que ça s'est vraiment accéléré. C'est...
Absolument. C'est tu as tout à fait raison d'avoir posé la question en parlant des 50 dernières années. Il y a eu des grandes enquêtes sociologiques sur qu'est-ce qui s'est passé, notamment dans les sociétés occidentales contemporaines au cours des dernières décennies. Et toutes ces enquêtes convergent pour montrer que les grands infléchissements, c'est au début des années 1970. Toutes les courbes s'affolent au début des années 70. La chute du nombre des mariages, l'augmentation des divorces et des séparations de couples, c'est à ce moment-là. Et dans mon expertise, je fais d'ailleurs réfléchir les participants sur la question de savoir pourquoi c'est à ce moment-là et pas à un autre moment. On le voit très bien dans les courbes, on voit les courbes qui partent en vrille.
Alors, est-ce qu'on peut donner quelques pistes ou est-ce que tu veux vraiment garder le secret pour faire réfléchir les clubs ?
Non, tu as parfaitement deviné, je ne galvaude pas la réponse, parce que c'est important pour moi qu'ils y réfléchissent, et c'est même intéressant de voir quelles sont les réponses qui leur viennent à l'esprit. Il s'est passé des choses fin des années 60, début des années 70, qui expliquent pourquoi les configurations familiales se sont profondément transformées à partir de ce moment-là.
Oui, on peut imaginer un peu quelque chose. Il s'avère aussi que ça, c'est un peu concomitant avec la place de la religion, peut-être aussi dans les sociétés. C'est un des facteurs ou pas du tout? C'est complètement le hasard?
Oh bah oui, enfin, mais ça c'est sur le long terme. Quand je, dis que, quand je dis que les rapports d'autorité des aînés sur les cadets ont beaucoup diminué au fil de l'histoire de l'humanité, il y a des grandes étapes dans cette affaire. Et une des étapes, par exemple, c'est l'apparition de l'écriture. L'apparition de l'écriture, c'est à peu près moins 4000 avant Jésus-Christ. C'est un moment très important. Une société ne s'organise pas de la même façon suivant qu'elle est de l'écriture ou qu'elle n'en est pas, notamment parce qu'à partir du moment où il y a de l'écriture, il y a des archives, et donc ce que les aînés racontent sur le passé, sur la tradition, peut être contesté par les cadets en se rapportant aux archives. Donc, c'est des évolutions très, 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 très longues. Voilà le type de choses que l'anthropologie peut mettre en relief.
On a l'impression, comme ça, quand on essaie de projeter l'image, que c'est finalement le pouvoir qui est distribué de façon peut-être un peu plus large par des évolutions technologiques, des évolutions de société, tout ça qui va pouvoir induire un peu plus de libération, presque, c'était un peu le mot que j'avais envie d'employer, de certaines, entre guillemets, minorités, même si les femmes ne sont pas une minorité en termes de nombre, mais là, en tout cas, on sent l'influence des hommes sur les femmes, ce que tu disais depuis toujours quand on regarde la courbe de l'histoire, et que finalement, on va vers une espèce d'émancipation. Je vais venir à ma question. Est-ce que, alors je sais que les anthropologues ne raisonnent pas de façon
manichéenne. Fais un commentaire sur ce que tu viens de dire, avant que tu passes à ta question.
J'aimerais bien.
Parce que c'est très évocateur. Oui, il ne fait aucun doute que, pour le meilleur ou pour le pire, après chacun a son appréciation de ces évolutions, la liberté de comportement s'est considérablement accrue. Qu'on pense par exemple au libre choix amoureux qui aujourd'hui paraît quelque chose de tout à fait naturel dans nos sociétés occidentales modernes, il y a encore deux siècles, ce n'était pas le cas. Le mariage était très largement arrangé par les familles. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison de dire que tout ça, c'est très largement un effet, d'une part, du progrès technologique. La technologie modifie les comportements et a beaucoup participé à l'émancipation des femmes. La machine qu'on pense à, c'est lavoir qu'il y avait dans les villages dans le temps. La machine à laver a beaucoup fait pour l'émancipation des femmes. Et ça tient aussi à la mondialisation. Et au fait que la diversité des cultures s'est introduite dans nos sociétés, ce qui fait que le poids relatif de chacune des traditions, et notamment des traditions religieuses, mécaniquement s'est affaibli, puisque chaque tradition a été obligée de coexister avec d'autres traditions.
Alors oui, mais si je reviens à ce que tu disais, alors encore une fois, en tant qu'anthropologue, vous avez regardé l'ensemble, enfin en tout cas étudié l'ensemble des modes de famille à travers le monde et à travers les âges, et tu avais l'air de dire en introduction que finalement, c'était quand même plutôt, il y a eu plutôt une unité de façon d'appréhender le sujet famille, même s'il y a quand même, on voit qu'il y a des variations, mais quand même qu'il y avait, c'est pas non plus on passe pas de choses qui, enfin de représentations de la famille qui sont totalement opposées, notamment dans les grandes sociétés. Là, si on regarde.
C'est un des apports de l'anthropologie. Il y a de la famille partout. Il y a de l'organisation familiale partout, pour une raison qui est simple, qui est une raison sur laquelle je fais réfléchir les participants à ces rencontres, qui est une raison biologique, qui tient au fait qu'une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est ce qu'on appelle l'immaturité postnatale. La durée de la grossesse est très courte dans l'espèce humaine par rapport à la durée du développement total. C'est vrai aussi chez d'autres espèces animales, notamment les oiseaux, mais pas à ce point-là. Chez nous, ça peut durer très très longtemps. Tous les gens qui ont des enfants, Et du coup, le petit enfant, lorsqu'il naît, est dans un état de dépendance totale par rapport à son entour. Il faut bien qu'il y ait des adultes qui s'occupent de lui. C'est un impératif de survie de l'espèce. Et cette raison explique de façon simple pourquoi il y a de l'organisation familiale dans toutes les sociétés humaines. Mais il n'empêche que La forme de la famille est incroyablement diverse d'une société à une autre. J'essaye d'en faire prendre conscience à l'auditoire. Quand on connaît la documentation ethnographique, c'est absolument incroyable la diversité qu'il peut y avoir. Les règles d'éducation ne sont pas du tout les mêmes. C'est pas, nous, on a tendance à penser que c'est forcément le père et la mère qui ont l'autorité sur les enfants. Ce n'est absolument pas le cas. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient s'imaginer, il existe même, elles sont très rares, mais il existe des sociétés sans père. C'est-à-dire qu'il existe des sociétés où la notion même de père n'existe pas. Le mot père ne fait pas partie du vocabulaire. C'est le cas en particulier d'une ethnie océanienne qui s'appelle les Trobriandais, dont je parle un peu. Et cette partie anthropologique, justement, permet de... je commence par là, dans mes expertises, parce que ça permet de prendre un peu de recul par rapport au débat contemporain. On sait tout le côté passionnel, mais parfois conflictuel, des débats qui ont lieu autour de la famille. Rappelons-nous ce qui s'est passé autour du mariage homosexuel, etc. Si on aborde frontalement ces questions qui fâchent, les discussions partent vite en vrille. L'anthropologie, ça permet de prendre du recul à la fois spatialement et historiquement et d'aborder les choses de façon plus apaisée.
Comment tu as été accueilli quand tu as sorti le livre « Mille et une façons de faire des enfants » du coup ? Parce que tu es quand même sur un sujet, tu l'as dit, qui est potentiellement qui émeut, qui peut vraiment être le centre de plein de débats passionnés dans l'émotion à fond, quoi.
Absolument. Ce n'est pas n'importe quel sujet. La question de savoir comment on fait les enfants, il y a des très beaux textes de Freud qui dit que c'est la première grande question intellectuelle que se pose un tout petit enfant, souvent face à l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, arrivée réelle ou crainte. Et donc, c'est une question qui est très chargée émotionnellement pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai eu la chance d'être plutôt bien accueilli parce que je développe une vision plutôt optimiste de tout cela. Souvent, trop souvent, je trouve, les discours concernant la procréation médicalement assistée, d'une façon plus générale, l'irruption de la technologie dans le champ médical, sont des discours inquiets, pessimistes, angoissants, on vous parle d'eugénisme, etc. Et moi, j'essaie de prendre un peu le contre-pied de cette optique en montrant d'abord qu'il y a des applications médicales absolument incroyables. Les progrès technologiques de la médecine aujourd'hui, avec des exosquelettes, ont réussi à refaire marcher des gens qui étaient paralysés. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment très, très impressionnantes. Et les gens qui tiennent un discours pessimiste ou inquiet, qui ont tendance à considérer que c'était mieux hier, sont des gens qui ont oublié ce que c'était il y a encore un siècle. Il n'y avait pas d'anesthésie, les femmes mouraient en couche, etc. Il n'y avait pas d'antibiotiques, ton gamin se coupait le soir, tu ne savais pas si le lendemain matin il serait encore vivant. Il faut quand même bien mesurer tout ça. Et des techniques nouvelles comme la fécondation in vitro, on peut être contre pour des raisons idéologiques, on peut être inquiet, ça c'est tout à fait légitime, mais la fécondation in vitro, depuis qu'elle est apparue, elle a permis la naissance de 10 millions d'enfants dans le monde. Donc il faut quand même réaliser la somme de bonheur que ça a pu représenter pour les parents, pour l'entourage, pour ces enfants qui sont arrivés. Alors que je me souviens très bien, quand la première fécondation in vitro a eu lieu, c'était en 1978, les titres des journaux, c'était « Les médecins jouent aux apprentis sorciers »,« Où va le monde ?», etc. Et donc, moi, je tiens un discours qui est plutôt optimiste, je suis plutôt porteur d'un discours optimiste, ce qui fait que j'ai été accueilli plutôt avec le sourire, je peux dire.
Et on peut même compléter par le fait qu'on est en 2026, la courbe de natalité, la courbe démographique en France s'est inversée. Pour Absolument. La première fois depuis justement les années 70, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Absolument.
On a plus de mortalité que de natalité. Et que même, donc, du point de vue de l'anthropologue, peut-être avec une vision un peu macro...
Ça, c'est plus récent. En fait, le nombre de naissances diminue. Et ce qu'on appelle l'indice conjoncturel de fécondité des femmes ne cesse pas de diminuer. En France, on était assez protégé de ce point de vue-là, puisqu'il y a eu des politiques natalistes très puissantes. Mais depuis 2010, ça a beaucoup, beaucoup chuté. Je crois qu'actuellement, l'indice conjoncturel de fécondité pour une femme, c'est 1,56, alors que pour que la population se reproduise, il faut que ce soit 2,1. C'est une évolution préoccupante.
Donc, de ce point de vue-là, peut-être que c'est une bonne nouvelle qu'on puisse augmenter les natalités grâce à la fécondation in vitro.
Malheureusement, ça joue très à la marge. Ah. En termes numériques, ça joue très à la marge. Il y a des travaux d'un sociologue extrêmement intéressant qui expliquait récemment, je suis désolé, son nom m'échappe, c'est pas parce que c'est un concurrent, mais son nom m'échappe là, mais qui expliquait une chose passionnante. Il disait, si on veut redresser la courbe de la natalité en France, on a tendance à penser à la nécessité de développer des politiques natalistes, ce qui est augmenter les allocations familiales, etc. Bon, c'est tout à fait exact, mais il dit le principal facteur sur lequel il faudrait jouer, c'est aux hommes de faire le boulot, c'est sur la répartition des tâches dans les ménages. Les Français sont champions du pessimisme parental. Quand tu poses des questions aux gens des différents pays européens sur est-ce que le fait d'avoir des enfants, pour vous, ça a été un frein dans votre carrière professionnelle, est-ce que c'est lourd à porter, etc. Les Français sont les gens qui répondent avec le plus haut pessimisme en disant oui, ça a été un frein. Alors qu'en Suède, c'est exactement l'inverse. Mais la répartition des tâches ménagères n'est pas du tout la même. Les congés de paternité, ça dure 6 mois en Suède. Voilà.
Comment on... Bah, d'ailleurs, ça bouge hein, quand même en France, puisque... les employeurs qui nous écoutent, voire les gens qui vont être heureux ou qui sont de jeunes heureux parents, encore plus en 2026, il y a des nouvelles lois et des nouveaux congés qui existent. Et l'homme peut prendre un congé parental après son congé paternité et ça pousse. On arrive facilement à 2 mois.
Absolument.
En tout cas, nous, c'est l'expérience qu'on vit en tant qu'employeur en ce moment, de voir de heureux jeunes parents qui peuvent accompagner leur compagne qui, elle aussi, peut prendre un congé XXL. Et donc, on voit des durées. Qu'est-ce que, toi, en tant qu'anthropologue, qu'est-ce que ça peut modifier? Donc là, tu viens de nous en parler un petit peu, mais qu'est-ce que ça peut modifier en France dans la parentalité, la façon de vivre sa parentalité, notamment pour les papas?
Ah ben ça va modifier beaucoup de choses. La répartition sexuelle des tâches domestiques, hein, par exemple, et c'est quelque chose qui évolue. Je dois avouer que dans ma génération, et moi-même je me mets dedans, bon, on ne faisait pas grand-chose à la maison. Mes enfants, eux, si, ils participent activement. On est encore loin du compte. Hein. La répartition sexuelle des tâches, c'est de l'ordre domestique. C'est de l'ordre de 30% pour les hommes, et 70% pour les femmes, et les hommes se réservent les tâches qui sont les plus nobles, les plus sympas, jouer avec les enfants, les plus valorisés, etc. S'occuper du linge, tout, c'est déjà plus compliqué. Mais ça change beaucoup de choses. Et il y a aussi une plus grande tolérance, il faut dire ce qui est. Hein. Aujourd'hui, dans la jeune génération, par rapport à des sujets comme les mariages mixtes ou l'homosexualité, il y a une tolérance qui est plus grande que dans les générations précédentes. À nouveau, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en attriste, mais c'est comme ça.
Sur ce point précis, on a l'impression qu'on a un peu régressé ces dernières années, que la société est beaucoup plus polarisée. Alors, bon, le mariage pour tous nous avait montré le contraire, était déjà à ce moment-là très polarisé, mais on a l'impression que les passions se déchaînent, qu'on entend un peu trop, beaucoup de bruit en fait, autour de ces sujets de société, moins que dans les années 2010, par exemple. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que...
C'est un peu une vue de l'esprit, c'est beaucoup un effet médiatique. On a oublié. Par exemple, la création du Pax, ça a mis le pays à feu et à sang. On a complètement oublié ce qu'ont été les débats autour du Pax en France. Le vote de la loi sur le mariage homosexuel aussi. Et les choses s'apaisent. C'est-à-dire qu'une fois que les lois sont votées, on voit ça très bien dans l'évolution des sondages d'opinion. Il y a toujours des gens qui sont contre, évidemment. Ils ont tout à fait le droit d'être contre. Mais quand même, la proportion de Français qui se disent favorables à ces évolutions ne cesse d'augmenter. Et elle est plus... Aujourd'hui, c'est 68% de gens qui sont favorables au maintien de la loi Taubira, donc sur le mariage homosexuel. Et quand on diffracte ce chiffre en fonction de l'âge des personnes qui répondent, chez les jeunes, c'est au-dessus de 68%. Donc on voit quand même vers où vont les évolutions. C'est vrai que les débats se crispent, les médias sont un peu coupables à cet égard, parce qu'ils adorent organiser des débats où, au lieu de 32 personnes qui ont des positions mesurées, ils prennent un grand adversaire des mères porteuses et une personne favorable aux mères porteuses, et puis ils souhaitent en fait que ces deux personnes en guirlande au micro. Bon.
Alors maintenant qu'on a regardé un petit peu les grandes tendances, qu'est-ce que ça augure pour l'avenir ? Tu nous as dit tout à l'heure qu'on pouvait faire de la prospective à partir de l'analyse qu'on avait tirée. Donc là, si on remonte à peut-être pas les 7000 dernières années, mais en tout cas quand on regarde dans le rétro suffisamment loin, qu'est-ce que ça augure dans un futur proche selon toi en tant qu'entrepreneur ?
Alors, à nouveau, je vais faire un peu de joker pour répondre à cette question, parce qu'évidemment, pour pouvoir répondre sérieusement à cette question, pour faire de la prospective, pas au doigt mouillé, mais vraiment à partir d'une réflexion, il faut s'être mis d'accord d'abord sur quels ont été jusqu'à maintenant les moteurs des évolutions. Et ça, comme c'est quelque chose que j'essaie de faire découvrir aux participants, je ne veux pas y répondre tout de suite. Mais moi, j'aurais tendance à répondre deux choses. Je pense que en réalité, nous sommes déjà demain. Il y a déjà des choses qui sont en train de se passer, notamment sous l'effet des technologies, dont les gens n'ont pas conscience parce qu'ils ne sont pas au courant, mais qui augurent un peu de l'avenir. Par exemple, très peu de gens savent que les premières greffes d'utérus ont eu lieu et que les premières naissances consécutives à des greffes d'utérus ont eu lieu. C'est une équipe suédoise qui a mis ça au point. Il y en a eu une vingtaine en Suède et il y en a eu deux ou trois en France parce qu'ils sont venus à l'hôpital Foch de Suresnes. Ça va complètement déplacer les débats sur les mères porteuses. Parce que je laisse de côté la question du recours aux mères porteuses par les homosexuels. Mais les femmes qui recourent à des mères porteuses, c'est des femmes qui sont dans des situations terribles où elles sont nées sans utérus, où elles ont une malformation utérine, où elles ont dû subir une hystérectomie à la suite d'un cancer des ovaires de l'utérus. Bon, à partir du moment où il va y avoir des greffes d'utérus, et il y en a déjà, c'est déjà actuel, le paysage se posera très très différemment et ça va déplacer les débats. À nouveau, qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en attriste, les questions éthiques sont constamment bouleversées par les évolutions technologiques. Ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel il faut compter pour les années qui viennent. Et l'autre chose, c'est que je pense que les façons de faire les enfants vont se diversifier de plus en plus. Une grande partie de l'humanité va continuer à utiliser la bonne vieille méthode si agréable pour faire des enfants, et c'est tant mieux. Mais on utilisera des techniques médicales comme la fécondation in vitro qui existe déjà. On utilisera, si on se projette dans 5, 6, 7 décennies, on utilisera d'autres techniques médicales qui sont en préparation dans les laboratoires. Et à un horizon très, très lointain, à nouveau, qu'on s'en attriste, qu'on s'en réjouisse, on peut très bien imaginer l'existence d'un utérus artificiel. Les progrès des recherches sur les cellules souches rendent cet horizon encore très lointain, mais pas totalement impossible.
Qu'est-ce que dit la science-fiction là-dedans ? Parce que souvent, les ouvrages de science-fiction peuvent dessiner un futur. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour parler de ce qui serait souhaitable ou pas, mais qu'est-ce que tu as observé ? Parce que j'imagine que dans ton travail d'anthropologie, parfois, tu prends cette grille de lecture-là.
Non, je ne suis pas un grand lecteur de science-fiction, je dois dire, je le regrette, simplement parce que je ne connais pas bien. Mais la science-fiction, elle se passe dans les laboratoires actuellement. Ils se préparent des choses absolument, absolument incroyables. Pour te donner un exemple, on sait que pour ce qui est des techniques de procréation médicalement assistée, une des techniques, c'est la fécondation in vitro ou l'insémination artificielle avec don de gamètes pour des gens qui... par exemple, ont un sperme déficient ou n'ont pas de ovocytes, on peut faire recourir en extra-conjugal à un don de gamètes. La difficulté, c'est qu'en France, il y a une pénurie de gamètes parce que le don de sperme ou le don de ovocytes n'est pas rémunéré en France, contrairement à d'autres pays. Mais simplement, Il y a des laboratoires où il est en train de se préparer la possibilité de faire régresser des cellules de peau à l'état de cellules souches et à partir de là, de les faire évoluer vers des gamètes. Et à ce moment-là, la pénurie de gamètes va disparaître. Et ce que je suis en train de raconter là, ce n'est pas pour dans 20 ans. Hein. C'est vraiment en train d'être travaillé dans des laboratoires. Voilà. Donc la science-fiction, bah, il suffit d'aller voir un peu ce qui se passe dans les labos.
Ça me fait penser à un film québécois que tu as peut-être vu, où c'est un donneur qui
très
se
drôle.
Retrouve à avoir, je sais plus, de 200 enfants qui l'identifient. Ça pose quand même des questions aussi de... tu parlais tout à l'heure de l'éthique, mais en fait, on voit bien aussi que le cadre réglementaire évolue et qu'il peut y avoir aujourd'hui un cadre réglementaire qui, par exemple, va te garantir l'anonymat en tant que donneur de sperme, puis qui va évoluer dans 20 ans et puis Absolument. Qui va faire que toi, tu vas te retrouver dans une situation...
Absolument. Il a déjà évolué. C'est qu'au départ, c'était un anonymat total. Et aujourd'hui, sous la pression d'un certain nombre d'enfants qui demandaient à pouvoir connaître l'identité de leur géniteur, il est devenu possible, sous certaines conditions, quand les enfants atteignent la majorité, de demander au géniteur s'il accepterait bien de se faire connaître. Mmh. Voilà. Tout ça peut paraître loin des chefs d'entreprise, mais en fait, ça a des incidences directes.
En fait, c'était ça ma question, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette discussion. Alors, on n'aura pas eu le temps de parler de sport, mais ce n'est pas grave.
C'était une autre forme de sport dont on a parlé.
Voilà, on en parlera une autre fois. Quel est le lien effectivement avec l'entreprise? Et puis moi, j'avais une question subsidiaire que je peux te poser. C'est dans quelle mesure aujourd'hui on demande aux entreprises d'incarner une partie de la fonction éducative? Et je pense notamment à l'alternance, qui est une bonne, je trouve, illustration de ce truc où depuis quelques temps, on a déporté très fort auprès des entreprises cette charge et cette responsabilité de former nos jeunes, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Bah, ce qui est clair, c'est que les entreprises ne vivent pas ex nihilo, donc forcément, elles sont sous l'influence des mouvements qui affectent la société. Et elles sont obligées, par nature, de s'y adapter, au moins en partie. Je pense, par exemple, à la multiplication des familles monoparentales. Aujourd'hui, en France, c'est un chiffre énorme, il y a 25% des familles qui sont des familles monoparentales. C'est plus nombreux encore que les familles, ce qu'on appelle les familles recomposées. Donc, il y a beaucoup d'employeurs qui m'expliquent qu'ils ont des mères solos parmi leurs employés et ils sont obligés de faire des aménagements d'horaires, d'en tenir compte dans l'organisation du travail. Donc, évidemment, tout ce qui se passe dans le champ social a une incidence sur les entreprises. Parfois, c'est des contraintes, parfois, c'est des chances. L'entrée massive des femmes dans le monde du travail, c'est quand même une chance pour le monde des entreprises. Ça amène de la diversité, ça amène d'autres points de vue. Et sur la question de l'éducation que tu évoquais, c'est une longue question, on n'aura pas le temps de la développer véritablement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup des fonctions qui étaient entre les mains des familles dans le passé ont été dévolues à l'État, tout simplement, à l'école. Mmh. Hein, et aux entreprises pour partie. L'alternance est un très bon exemple. Et ça pose toutes les questions de l'évolution des rapports d'autorité des jeunes, des rapports des jeunes pardon, à l'autorité et au travail, qui est une question problématique pour beaucoup d'entreprises.
Eh bien, écoute, c'était une incursion dans l'univers passionnant de la famille. Un grand merci pour cet échange nourri. On a gardé pas mal de mystères, hein, donc on peut encore inviter Bertrand dans son club sans avoir tout défloré. Vous avez déjà des questions auxquelles vous pouvez commencer à réfléchir. C'est toujours un grand plaisir de discuter avec un sociologue, anthropologue, parce qu'on est toujours surpris par l'échelle temps dans laquelle on s'insère en tant qu'individu. On a toujours l'impression que nous, on est à la pointe de l'humanité, du progrès, de tout. En même temps, on prend un peu de recul et ça nous fait relativiser beaucoup de choses. Écoute, c'est un sujet qui est vraiment passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion de t'accueillir dans mon club à Lyon et de continuer tout ça.
Je serai avec grand plaisir.
Je te dis à très bientôt, Bertrand.
Au revoir, à bientôt. Au revoir.